Chapitre 2. Ce soir-là, Jacques Lantier, mécanicien à la Compagnie de l'Ouest, vint rendre visite à sa tante Fazie, qui travaillait avec son mari Misard comme garde-barrière à la Croix de Maufra, un lieu perdu et sinistre. Dans le jardin, Flore, la fille de sa tante, tirait de l'eau au puits. C'était une grande fille de 18 ans, blonde et forte. Dès qu'elle aperçut le voyageur, elle l'appela. Il leva la tête. Il venait d'avoir 26 ans, c'était un beau garçon. Comme chaque fois qu'il abordait une femme, il eut un frisson. Il entra dans la maison. En le voyant, tante Fazie eut un cri de joie. « Comment ? C'est toi, Jacques ! Quelle bonne surprise !» Il l'embrassa sur les joues, lui expliqua qu'il avait 2 jours de congé car sa locomotive, la Lison, était en panne. Il coucherait et repartirait le lendemain matin. « Et toi, est-ce que tu vas tout à fait bien maintenant ? Tu te rappelles les choses dont tu souffrais ? Ces coups de fièvre brusques et ces accès de tristesse qui te faisaient te cacher comme une bête au fond d'un trou ? Je me porte très bien. Je n'ai plus rien du tout. » Après le dîner, Jacques sortit se promener. La pleine lune éclairait le ciel. Il traversa la voie de chemin de fer pour aller voir l'autre maison, la maison abandonnée par le président Grandmorin après la mort suspecte de l'autre fille des Misard, Louisette. Il vit soudain une ombre et fut étonné de reconnaître Flore, une paire de ciseaux à la main. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu vois, je coupe des cordes. Assieds-toi donc. » Elle laissa glisser les ciseaux. Il la prit contre lui avec violence et il écrasa sa bouche sur la sienne. Elle se coucha sur le dos et s'abandonna à lui. Alors il s'arrêta, haletant. Il avait l'air d'un fou. Il chercha quelque chose autour de lui, une arme pour la tuer. Il vit les ciseaux, les ramassa prêts à l'égorger, puis les rejeta. Il s'enfuit, épouvanté, le long de la voie ferrée. Mon Dieu ! Il était donc revenu ce mal abominable dont il se croyait guéri. Voilà qu'il avait voulu tuer cette Flore qu'il avait vue grandir. À ce moment-là, l'express du Havre, parti de Paris à 6h30, sortit du tunnel. Les wagons se succédèrent. Les petites vitres carrées des portières, violemment éclairées, firent défiler les compartiments pleins de voyageurs. Et Jacques, très distinctement, aperçut par les glaces d'un coupé un homme qui en tenait un autre renversé sur la banquette et qui lui plantait un couteau dans la gorge, tandis que quelque chose de noir, peut-être une troisième personne, pesait de tout son poids sur les jambes de l'assassiné. Mais déjà le train fuyait. Le jeune homme le suivit des yeux, se demandant s'il avait bien vu. Il retourna chez sa tante et y trouva Misard. « Je suis venu prendre ma lanterne, lui dit celui-ci, parce que, en rentrant, j'ai aperçu un homme couché sur la voie. Je crois bien qu'il est mort. Je vous accompagne. » Quand ils arrivèrent, Misard promena la lanterne au-dessus du corps. L'homme était sans doute tombé d'un wagon. Il était très bien vêtu, et du sang coulait de sa gorge. Il ne faut pas le toucher, dit Misard. Vous allez rester là pendant que moi je vais à Barentin prévenir le chef de gare. Jacques resta seul et regarda le mort avec une curiosité morbide. Un petit bruit à son côté le fit sursauter. C'était Flore. Elle souleva la lanterne d'une main et examina le mort.
« Tiens, c'est le vieux Grandmorin.
Ha ! Fini de rire avec les filles, » dit-elle plus bas. « C'est à cause d'une, pour sûr. »«
Ah, le cochon ! C'est bien fait !»
Un bruit de voix se fit entendre. C'était son père qui ramenait le chef de gare. Le chef de gare reconnut tout de suite le mort. C'était bien le président Grandmorin. Il fit couvrir le corps d'un manteau et envoya un employé à Rouen pour prévenir le procureur.